Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
J'en profite pour saluer le gros travail des vignerons sur les rouges alsaciens. On se régale de leurs rouges et on leur dit merci. Parce que à chaque fois qu'il y a un événement, là, comme par exemple à la Sommerfest, on fait la série des rouges et il n'y a rien à acheter. Tout est bon. Tout est différent aussi. On ne cherche plus à copier nos voisins bourguignons, dont on adore les vins, mais on a envie de boire des rouges d'Alsace, pas des rouges de Bourgogne. On veut boire des vins identitaires.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Oulala.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. On est en automne, c'est le début de l'automne, c'est le premier épisode automnal. Alors, on n'est pas aujourd'hui dans les vignes. Ça fait longtemps que je leur cours après, un peu comme une blonde. Et il était temps qu'on arrive à se voir parce que le but c'est aussi de mettre en avant dans la région les cavistes, les restaurateurs, tous ceux qui font le monde du vin, pas que les vignerons, même s'ils sont très importants parce que sans les vignerons on n'est pas grand chose. Et moi je suis content aujourd'hui parce que je suis à Strasbourg, dans un quartier que les gens aiment bien. En tout cas, c'est un quartier qui est assez populaire dans l'imaginaire des gens, qui est à la Cruteno. Et à la Cruteno, il y a un caviste qui se dit caviste alternatif, et c'est d'ailleurs sur son enseigne. On est à l'Œnosphère chez Benoît. Salut Benoît.
Bonjour à tous, salut.
Comment tu vas?
Très bien.
Alors, c'est vrai que ça m'a toujours surpris la première fois que j'ai vu cette affiche-là, enfin en tout cas, comment on appelle ça, cette enseigne-là. C'est quoi un caviste alternatif?
Alors, c'est une question qu'on nous a souvent posée, bien sûr. L'idée, c'est de mettre en avant un peu des choses hors des sentiers battus. On aime, bien sûr, les vins naturels. On a une grosse sélection de bio, biodynamie, nature dans notre gamme. Mais on aime aussi un peu les vieux cépages qui ont eu tendance à disparaître un peu ou en tout cas à perdre du terrain. On aime bien, des fois, des vinifications un peu insolites, des choses qui nous surprennent un peu, qui titillent nos papilles un peu, justement, qui vont un petit peu nous dérouter. Ça nous, on aime bien aussi sortir des carcans.
Ouais, on aime bien sortir des carcans aussi. Et alors Benoît, t'es accompagné parce que vous travaillez ensemble. Et puis c'était aussi l'autre aspect du vin qui m'intéresse, parce que même si j'ai pas forcément toujours un bon souvenir de certains de mes professeurs, mais c'est quand même des gens qui sont importants. Salut Christophe.
Salut, comment ça va?
Alors comment tu es toi, serveur, vendeur, professeur, c'est quoi ton étiquette?
Alors mon étiquette, alors deux étiquettes déjà, l'étiquette le nomade.
nomade, où là, donc j'ai...
Eh oui, le nomade, oui, exactement.
Le nomade qui est donc ma compagnie, où j'ai fait beaucoup, où j'organise pas mal de dégustations sur des accords mets-vins en restaurant. Je suis aussi un centre de formation, j'ai mon propre centre de formation, donc petit centre de formation parce que je travaille tout seul. Et je suis aussi prof en sommellerie, donc au CFPA à Elkirch, où je m'occupe des mentions complémentaires sommellerie.
D'accord.
Et ma deuxième étiquette, qui est donc employée à Onosphère. Donc je suis vendeur, bar à vin, animateur de soirée.
Il anime beaucoup nos soirées dégustation
voilà.
aussi.
C'est, j'anime beaucoup les soirées dégustation.
C'est lui le DJ, c'est ça ?
Ouais, c'est moi qui essaie de mettre l'ambiance. C'est moi.
Alors ce que je vous propose pendant ce temps qu'on est ensemble, bah, c'est de faire le parcours de chacun, de parler aussi du vin aujourd'hui, hein, de l'évolution, parce que il me semble que l'Onosphère, ça a quasiment 10 ans. Ou ça,
plus,
déjà,
plus, plus de 10 ans. On va avoir 15 bientôt.
15 ans,
ouais, ouais, 2007, ouverture de l'Onosphère.
Ça ne nous rajeunit pas.
Non, c'est
clair. Mais c'est vrai que le monde a un petit peu évolué, le monde du vin a évolué. Alors, en bien ou en mal, on en parlera peut-être. Moi, j'ai aussi mon opinion sur la question. Et puis justement, de voir un petit peu comment vous êtes rencontrés et toi aussi, un petit peu voir l'évolution aussi des élèves. C'est intéressant aussi de voir comment le palais des élèves a évolué, s'il a évolué ou pas, parce que finalement, c'est une question que souvent beaucoup se posent. Et puis à la fin, j'ai une question parce que je sais que je suis un vigneron actuellement sur une année et qu'il était un de tes élèves.
Oui,
ce serait le moment d'avoir un petit dossier.
Mais c'était mon élève en anglais, lui. Parce qu'en fait, je suis aussi prof d'anglais appliqué au vin à l'UT à Colmar.
D'accord. Du coup, on commence.
Quand
c'est
tu
parti.
Veux, c'est parti.
Benoît, je.
Alors, mon parcours a démarré par l'hôtellerie-restauration. J'ai fait mon bac techno et mon BTS à Elkirch, Alexandre Dumas. Avec déjà un petit intérêt pour le vin qui a commencé. On allait souvent au Salon des Vignerons Indépendants, commencer à se faire un peu le palais, goûter toutes les choses un peu qu'on ne connaissait pas. Apprendre déjà un petit peu, se faire un petit panel déjà dans la mémoire de dégustation. J'ai hésité à faire la mention en sommellerie, mais j'ai eu envie de travailler après, donc mon BTS, j'avais envie de partir, donc je suis parti en Angleterre, à peu près un an et demi. Et là je suis tombé sur des grands passionnés de vin, donc ils m'ont vraiment ils ont fini de me convaincre que c'était la branche qui me plaisait le plus dans ce métier là. Donc je faisais de la sommellerie, du service, je m'occupais beaucoup de la cave, j'avais une patronne vraiment assez passionnée qui faisait beaucoup d'enchères à Londres aussi, donc elle revenait des fois le lundi, on avait des livraisons et on savait même pas ce qu'elle avait acheté, on découvrait comme un cadeau de Noël quoi. Qu'est-ce qu'elle nous avait ramené de son week-end. Et voilà, et après je suis rentré en France quelques temps, j'ai fait un petit passage au Burizel, en commis sommelier. Bon, je ne suis pas resté longtemps parce que je manquais un peu de responsabilité. Donc je suis parti dans le sud être sommelier à nouveau. Et on m'a parlé à ce moment-là de Suze Larousse, un de mes responsables m'avait parlé des formations de l'Université du Vin dans la Drôme. Et j'ai trouvé que ça compléterait bien ma formation, mes connaissances. Donc j'ai fait la licence de Suze Larousse, la licence de commerce. Et voilà, je suis resté un peu dans le sud, j'ai travaillé dans le sud pour une cave. Et en 2007, quand je suis rentré à Strasbourg, c'était dans l'idée de... Enfin, 2006, c'était dans l'idée d'ouvrir une boutique avec plusieurs choses autour, disons. Et donc, j'ai pu le concrétiser en 2007.
Donc, l'Onosphère, 2007. Au début, tu commençais quoi avec des vignerons alors, tu cherchais déjà c'était traditionnel, c'était bio, enfin, c'était le début.
Non, alors la cave dont je m'occupais dans le sud, près de Marseille, ouais. On avait une gamme, je dirais, un peu plus classique, mais j'avais commencé à m'intéresser quand même beaucoup à une culture plus naturelle. Je faisais les tout premiers millésimes bio qui se faisaient à Narbonne où il y avait 50 vignerons. Maintenant, millésimes bio, ça remplit deux halls à Montpellier, c'est immense. Et les premiers, c'était vraiment des tout petits salons et on rencontrait plein de gens intéressants déjà. Il y avait le domaine de la Pinte, il y avait Jean-Claude Ratto, il y avait vraiment déjà tout plein ouais, qui étaient, enfin ceux qui sont encore aujourd'hui. Et on a commencé à rentrer, la Tour Grise aussi, j'ai commencé à rentrer petit à petit, domaine Saint-Nicolas en Fief Vendéen. Enfin, j'ai commencé à rentrer un peu ces vins-là dans la cave dont je m'occupais dans le sud. Et voilà, commencé à basculer un peu la gamme vers ce type de vin. Donc j'avais déjà quelques petites idées de ce que je voulais faire en arrivant, mais il y avait encore toute une gamme à construire. Donc il n'y avait que quelques vins pour lesquels c'était déjà décidé avant. Et après, il a fallu construire la gamme avec des tout petits moyens. Hein. Je démarrais Kéfinvillers en face des pompiers, 35 mètres carrés, avec pas grand-chose. Et puis, voilà, ça s'est construit vraiment petit à petit.
Bah justement, toi, Christophe, ton passé avant l'Oenosphère, c'est quel est-il ?
Alors, c'est un peu plus complexe, en fait. Issu de la restauration, pure et dure. Hein. Ouais. Hein, j'ai commencé dans la restauration à cause du vin, d'ailleurs, à l'âge de 16 ans en apprentissage.
À cause et grâce,
parce que en fait.
Arun me disait qu'il a été pris au arrivé en France, il était pris au piège par le vin.
Alors en fait, moi c'était un sort de hold-up, donc job d'été, donc après entre la troisième et la seconde, dans un restaurant qui avait une très belle carte des vins à côté de chez mes parents, donc on était à 5 km de chez mes parents. Et job d'été, tu arrives dans un restaurant qui était quand même noté 16 Goemio. J'arrive, donc imagine. Un teenager de 16 ans qui arrive dans un restaurant avec un grand corps et puis sans pas trop bouger non plus dans une salle de restaurant. Donc ça a duré environ 4 heures avant de me retrouver dans la cave. Donc par contre, grand fan d'histoire, grand fan de géographie. Et on m'a dit, bah, vas-y, range la cave. Donc c'était un petit peu un bordel monstre dans la cave. Il a fallu que j'apprenne déjà ce que c'était un château. Après la chance de connaître un peu mes départements grâce au calendrier des postes. Donc j'ai commencé à ranger la cave, entre guillemets. Ça m'a pris 4 jours pour ranger la cave par région. Je ne connaissais rien du tout au vin. Pour moi, Saint-Estèphe, c'était comme Saint-Joseph. Hein. Attention, c'était le seul truc qui faisait plein de différence, c'était entre le rouge et le blanc. Et tous ces millésimes.
C'est plutôt visible, ça, voilà. En plus.
Meursault 49, ouais. Echezeau 59. Donc une très belle carte des vins. Et moi, je trouvais ça vraiment magnifique de voir ces noms. Alors, ces noms de châteaux, ces noms de domaines, ces millésimes, ces étiquettes. Donc, on est en 1989. Hein. Donc, on n'est plus sur ces étiquettes modernes qu'on a maintenant, marrantes. Hein. C'était vraiment des grosses étiquettes bien classiques. Et je trouvais ça tout simplement génial. Quoi. Et j'ai rangé la cave. Donc, la patronne était assez impressionnée d'avoir que je puisse ranger la cave en l'espace, même pas de 3 jours. Et en fait, il y avait un Château Margaux 84 qui était ouvert. Elle me l'a fait goûter. Et là, c'était la grande révélation. Pour moi, c'était. J'avais déjà goûté des vins, mais bon, loin de là d'être un Château Margaux. Et j'ai trouvé ça géant. Et après, j'ai commencé à goûter des choses assez classiques. Hein. Pour te dire, mes premiers vins, c'était Tavel de la Morderée. C'était les Macon Lunit chez Latour. Donc, tu imagines, un truc quand même bien classique. Et j'ai trouvé ça, franchement, je dis, c'est génial, ces arômes, ces goûts. Et l'histoire, après, qu'il y avait derrière les étiquettes et les domaines. Alors, attention, on n'est pas à l'époque Internet. Hein. Quand tu voulais les infos, il fallait chercher dans les bouquins. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. Et je trouvais ça, franchement, génial. Et donc j'ai fait quand même ces 2 mois en job d'été et je me suis retrouvé donc à la grande question à la rentrée septembre, savoir aller en seconde pour faire une seconde, ben, pour continuer pour un cursus classique sur le bac. Et bon, j'ai jamais été très scolaire à la base et du coup je me suis retrouvé à faire un BEP en apprentissage. J'ai appris c'était la restauration, donc du style mon premier jour, entre guillemets, de vrai contrat d'apprentissage, c'est finir à 16h. Et moi, je pensais que c'était terminé, quoi. Et, il faut revenir le soir. Donc, j'ai appris que c'était une coupure, travailler, découvert aussi la nourriture. Hein. J'avais un palais assez fin, donc goûter les sauces, goûter les plats, des choses que je ne connaissais pas. Hein. Et je trouvais ça, franchement, géant. Et j'ai enchaîné avec un bac BEP, bac pro, BP en mention œnologie, et la mention complémentaire en sommellerie à Metz. Et après, ben voilà, donc je suis parti. Donc voilà, donc j'avais toujours envie de partir. Hein. C'était à l'époque où j'avais vraiment envie de bouger, partir de chez parents, partir aussi de ma Lorraine natale. Et j'ai commencé à bouger dans le sud de la France. J'ai commencé à faire des extras sur Rochegude dans les Côtes-du-Rhône. Et après, la Suisse aussi, avec Domaine Châteauvieux. Et où je suis resté quasiment un an. Premier poste de commis sommelier, donc à Domaine Châteauvieux à Genève, qui venait d'avoir son étoile. Et là, c'est la grande découverte avec les grandes bouteilles, Petrus, Ikem. On avait la plus grande collection d'Ikem d'Europe. Donc là, on rentre dans les autres sphères, en fait, hein, la vente de vin. Et après, donc, j'ai enchaîné avec l'Angleterre. Je fais une petite saison à Orange, hein, qui n'a pas duré longtemps, avec le cellier des dauphins. géant.
Et on en a tous
voilà,
vu.
Ça change tout. Donc voilà, et je suis parti à Londres, où là, ça a été la grande découverte avec la vie londonienne, et surtout les vins qu'on trouvait à Londres, hein, donc des vins qui venaient du monde entier. Vins australiens, californiens, néo-zélandais, bien sûr, sud-africains, mais allemands, autrichiens, qu'on retrouvait. C'était vraiment une grande découverte. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment développé mon palais et mon goût pour le vin, avec des rencontres, avec des master sommeliers comme Yves Desmarie, quand je travaillais à Rodney's Square. Après, j'ai travaillé dans un Ladies and Gentlemen Private Club, salon privé, avec des, où j'étais mon premier poste de chef sommelier, en fait, donc responsable de la carte des vins. Donc on arrive sur une carte des vins où la façon de vendre les vins était, ben, les clients disent que c'est bon, donc il doit être bon. Voilà, c'était ça. Donc on a tout changé, tout remis en compte. Et après, donc là, par contre, travailler dans du palace avec Gordon Ramsay, donc à Claridge's et à Connaught. Où là, la carte des vins s'étend, où c'est magique, où tout ce que tu achètes, tu le vends, une clientèle pour. Et là, bien sûr, c'est les grands crus glacés de Bordeaux, les grands crus de Bourgogne, les grands vins californiens, les grands vins australiens. Et c'est juste magique. Donc voilà, donc ça c'est une petite partie, c'est la première partie on va dire, la deuxième partie c'est le retour en France, donc en 2005. Premier contact avec l'Alsace, parce que je ne suis pas d'ici, hein, je suis de Nancy.
À
Colmar, oui. et premier grand contact avec l'Alsace à Colmar, avec une position de maître d'hôtel chef sommelier au Fer Rouge à Colmar. Donc avec Patrick Fugengraff, hein, donc plus jeune étoilé, c'était le plus jeune étoilé d'Alsace. Mmh. Et donc là, grande découverte avec les vins d'Alsace. Alors sachant que les vins d'Alsace, je ne suis pas venu en Alsace par hasard, je suis venu au vin d'Alsace avec les vins allemands et autrichiens. Mmh. C'est bien après que je me suis intéressé avec l'Alsace, surtout au niveau gustatif, à Cormé et vin, et je trouvais ça franchement top. Et j'avais la plus grosse carte de vins d'Alsace à Londres, ce qui était à 24 ou 26 références. Ce qui était quand même rare à Londres. Ouais. C'est plus souvent une ou deux que 24, 25. Je travaillais beaucoup avec Creedon Weiss à l'époque, avec le père. Et ça m'a permis... Bah, j'ai adoré les vins d'Alsace. Je suis tombé amoureux des vins d'Alsace à Londres. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant les travailler en Alsace.
Bah, c'est parfait tout ça. Mmh. Bah, du coup, on est en 2007. Est-ce que tu peux nous rappeler, là, je rappelle à l'historien, là. C'était comment le monde du vin en 2007, alors à Strasbourg et, parce que bon, on le sait maintenant, 2021, ça a poussé comme des champignons, mais en 2007, alors de mémoire, je sais qu'il y avait un caviste nature. Bah, qui est près, qui est au centre-ville, mais moi c'est vrai que j'ai pas trop souvenir. Alors j'oublie la chaîne, hein, les chaînes Nicolas et compagnie, mais c'était comment le monde du vin, même dans la restauration, on buvait quoi en 2007?
En 2007, bon, il y avait quand même des acteurs du vin qui étaient présents, qui sont les anciens, et, qui avaient toujours qui ont fait un super boulot, hein, que ce soit Millésime, Vinostrada, enfin des gens qui sont arrivés bien avant nous, qui ont bien bossé. Mais c'est vrai que le monde des vins naturels, c'est sûr qu'il était très peu connu par rapport à aujourd'hui, où il a une place vraiment très importante. Et à Strasbourg, il a pris une place importante. Beaucoup plus de gens qui appréhendent bien ces vins, qui les recherchent, qui les veulent. À ce moment-là, bon, c'était beaucoup moins le cas. Et même moi, personnellement, je goûtais des choses qui m'intéressaient, qui me plaisaient, mais que je n'osais pas forcément... proposer en vente, de peur que effectivement ça soit trop compliqué, parfois un petit peu plus cher que les autres aussi. J'ai souvenir d'avoir goûté chez Binaire à l'époque. Il y avait le salon des vins libres. On avait accès aux vins de Pierre Boget, les Griottes, des gens qui ont même arrêté aujourd'hui, hein, les Griottes. On avait accès à déjà les Robineau, le Château Mêlé, enfin tout plein de vins naturels. Voilà, est-ce que ça pouvait se vendre à ce moment-là? C'était pas sûr, donc j'étais parfois aussi un peu frileux de les proposer. Aujourd'hui, je le regrette presque un peu, parce que ces vins-là, si on les avait, alors, il y aurait beaucoup de gens qui se jetteraient dessus. mais c'est comme ça, c'est comme ça. Même Auvernois, ouais, on aurait pu en avoir, et je les ai pas pris. donc voilà, des petits regrets.
Mais bon, peut-être un jour, ça reviendra.
Je te le souhaite.
En tout cas,
le public, ce sera pas mal.
Le public, je pense qu'il existait peut-être déjà, mais les gens étaient beaucoup moins nombreux. Les endroits où on pouvait boire du vin, ne serait-ce déjà que des vins un petit peu plus recherchés, n'étaient pas si nombreux, franchement. On retrouvait beaucoup des cartes de vin dans les restos faites par des gros distributeurs, donc des choses assez ressemblantes à droite à gauche. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même beaucoup moins évolué. Ouais, la restauration, les cavistes, tout ça a pas mal bougé. Il y a plein de jeunes aussi qui arrivent. Donc, pour moi, ça prend plutôt une bonne direction. Hein. C'est même au niveau de ce qui se passe sur la viticulture en Alsace.
Bien sûr.
Les vins qu'on goûtait il y a 15 ans, on goûtait évidemment de très bons vins, mais la diversité qu'on a aujourd'hui, elle n'existait pas. Ouais. Alors, on peut citer les vins oranges, les pétnates, pour des choses les plus particulières, ou les soleras.
L'amphore.
Mais l'amphore, voilà. Mais on avait un peu un archétype de vin, ce que devait être un Riesling, ce que devait être un Pinot Gris, ce que devait être un Gewürz. Et tout le monde s'acharnait à aller attendre vers ce qu'on pouvait faire de mieux vers le cépage, souvent peut-être le terroir aussi, et aujourd'hui, ouais, je trouve qu'on s'accorde beaucoup plus de liberté et le public est réceptif, quoi. Donc les vignons osent de plus en plus, le public est de plus en plus demandeur, donc on peut aller de plus en plus loin, ouais. Donc c'est chouette, ouais.
Ouais. Je pense aussi, oui, il y a aussi ce côté folie qui a peut-être amené finalement la bière. Ça a peut-être un peu décoincé les vignerons en disant ben, si la bière s'éclate, pourquoi nous on s'éclaterait pas. Et puis finalement, les jeunes sont venus parce que je pense que les jeunes, on parlait d'Einhardt, mais je pense les gueux, la grange de l'oncle Charles a déjà emboîté le pas. Hein. Je pense que si un jour on continue à leur mettre des bâtons dans les roues comme ça, vont sortir de là aussi. C'est pas qu'ils sont pas attachés à l'Alsace. Ils sont attachés à l'Alsace. Ils parlent tellement de leur terroir qu'on peut difficilement se dire ils sont pas attachés à l'Alsace.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'il y a une diversité. Mais justement à Londres, ça buvait quoi à l'époque?
Alors à l'époque, donc ça remonte, on va dire bien avant 2000, hein, on va dire que de 96, on va dire de 96 à. Alors on boit de tout. C'est bel et bien ça le truc. On boit vraiment de tout, hein. Ce sont des vins qui viennent du monde entier, donc on peut pas trouver un pays qui n'est pas représenté donc à Londres. J'ai toujours dit que Londres est la capitale européenne du vin, alors bien sûr pas en production, mais surtout en consommation. Mais on trouve de tout. Un jeune sommelier qui va à Londres peut déguster tous les jours, aller en dégustation tous les jours, et ça c'est magique, hein, d'aller en dégustation tous les jours, découvrir des choses qui sont formidables. Après. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une grosse tradition anglaise qui est Bordeaux-Bourgogne. Donc, déjà, on n'y coupe pas. C'est quand même des gros, gros consommateurs de Bordeaux, surtout de vieux Bordeaux, hein, des Bordeaux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On les trouve encore hein, sur Londres. Bon, ça a un certain prix, c'est sûr. Mais on les trouve pareil pour les Bourgognes. Donc, c'est un Anglais ne boira jamais un Bordeaux qui va avoir 2-3 ans. Après, comme je disais, ce qui m'avait vraiment amené donc, à l'Alsace, c'est aussi beaucoup de vins allemands. Les vins allemands et les vins autrichiens étaient beaucoup plus représentés que les vins d'Alsace. Donc, c'est toujours. J'ai toujours pas compris pourquoi l'Alsace avait loupé le coche. Hein. Pourtant, il y avait des dégustations qui étaient organisées avec des vignerons à Londres. Hein. Après, beaucoup de vins plus classiques, entre guillemets, on va dire conventionnels, voire biodynamiques. Moi, j'ai connu la biodynamie carrément à Londres, hein, je vais avoir 21 ans. Les vins nature qu'on avait, c'était la pierre. Hein, et puis, voilà, entre guillemets, c'était ça. Ouais. Et c'était quasiment tout hein, qu'on pouvait avoir sur notre carte des vins donc, à cette époque. Là, par contre, l'évolution est tout simplement incroyable. J'ai une amie hein, qui est responsable de 5, 6, 7 restaurants pour les cartes des vins sur Londres et l'étranger, où il y a énormément de vins nature, de plus en plus de vins nature. Après, il y a une très grosse évolution de la clientèle, que ce soit en craft beer sur Londres et les vins naturels. Donc là, qu'on prend même les quartiers du East End, hein, sur Liverpool Street, Spitalfield Market, Whitechapel, un quartier un petit peu hipster de Londres, où il y a énormément de vins nature. Bon, c'est devenu très très bobo, c'est sûr. Avant, c'était un quartier un peu hippie, un peu coupe-gorge. Et maintenant, c'est que des grandes marques, avec tous les vins nature, tous les bars de vins nature. Il y a énormément de bars en vin nature à Londres, il y a vraiment une très très grosse évolution, comme on a suivi donc comme en France. Hein.
Justement, quand l'Œnosphère a ouvert
Est-ce que tu te rappelles de ce que tu distribuais comme vin, enfin ce que la clientèle venait chercher, enfin plutôt que tu me racontes en fait l'évolution sur les 5 premières années, au moment où tu as ouvert, et puis tu as vu, toi tu es arrivé en quelle année à l'Unisphère?
2015.
Mmh. Ok. Justement voir cette évolution là du client.
Ouais, alors bon, au tout début, bon, comme tu disais avant, ça démarrait avec une cave beaucoup plus petite, peu de moyens, donc la gamme, évidemment, je veux dire, elle a...
C'était toujours au même endroit ?
Non, c'était Kéfinguilère, en face. D'accord. Des pompiers, okay. C'était 35 mètres carrés. Bon, aujourd'hui, elle a quintuplé, ou je sais pas. On a vraiment beaucoup de,
bah, c'est plus grand,
de références maintenant, hein, et ouais, c'est beaucoup plus grand.
C'était quoi Alsace avant Kéfinguilère ?
Et bon, ce qui a permis un petit peu de me faire connaître, les soirées Eno que j'avais commencé dans l'arrière-boutique à 12. On était tous serrés, mais bon, les gens qui venaient, ils étaient très fidèles parce que c'était une ambiance très, très, très cosy et de quartier. Et effectivement, bon, je bossais déjà avec certains domaines. Par exemple, j'avais commencé à faire découvrir les vins des Côtes du Forez, qui étaient du domaine Mondon à l'époque. Maintenant, c'est demeure, Christine et Laurent, qui ont repris le domaine Mondon, toujours sur le même principe. Des gens en Auvergne qui cultivent des hybrides encore, qui ont du Baco, des Seibel, des Ravassis, qu'on met un peu des fois en déguste justement dans les soirées ovnis, quoi. Ce qu'on appelle les ovnis, fait partie des vins qu'on aimait déjà avant, qu'on aime toujours maintenant. Après, c'est vrai que c'était peut-être un poil plus classique, et il y avait par exemple au début, j'avais mis des marques de champagne, par exemple je vendais Roderer par exemple, parfois on nous demandait du cristal. Bon, bah, c'était bien d'avoir à disposition un cristal, peut-être, voilà, pour la petite vente exceptionnelle. Aujourd'hui, on ne nous demande plus ces champagnes-là. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui se perd et qui nous demande un Ruinard. Ça, c'est toujours à la mode, Ruinard, mine de rien, oui, pour certains. Mais aujourd'hui, on a dit non, on a envie de représenter que des vignerons en champagne, ou des négoces, mais dans l'esprit vigneron, des petits négoces comme clandestins. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on sent qu'effectivement, on peut s'en passer, ou en tout cas, on assume aujourd'hui de s'en passer, de dire voilà, vous voulez une marque, c'est pas chez nous. Nous, on a envie de défendre aussi le vigneron aussi en Champagne. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, on avait déjà quelques Alsace, mais ouais, la place manquait pas mal. C'est difficile de se rappeler de toutes les références qu'on avait parce qu'on en a rajouté tellement. Mais de temps en temps, j'osais des petites choses un peu ovnis, et puis selon le client, on revenait vers des choses un peu plus classiques. Mais ce qui est encore assez vrai aujourd'hui, c'est à nous de jauger qui on a en face de nous, quoi. Est-ce que la personne a une petite expérience des vins naturels? Pas du tout, un peu, beaucoup. Pour qui est destinée la bouteille? Si elle est destinée pour quelqu'un qui a 60 ans et qui a toujours bu des vins conventionnels, est-ce qu'il faut oser forcément un vin nature compliqué? Donc là, c'est plutôt un peu la psychologie. Ouais. Donc, ça existait déjà à l'époque. Après, effectivement, là, il y a des changements générationnels, il y a une évolution de notre gamme, il y a une connaissance aussi, notre connaissance à nous qui a aussi évolué.
Qui a évolué, bien
ouais,
sûr.
Ça, c'est sûr. On a maintenant une bonne maîtrise de ce qu'on... Enfin, on avait déjà, mais enfin, elle a forcément évolué, la maîtrise des produits qu'on propose. Mais toujours en essayant d'avoir de la pédagogie aussi auprès de nos clients. Voilà, leur expliquer, effectivement, continuer d'expliquer qu'un vin nature, ça peut buller, ça peut être un peu animal quand on ouvre, ça peut avoir des phases compliquées.
Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que on l'a tous vu, hein, l'évolution. Et puis les gens aussi... Moi, je le vois encore sur les marchés de temps en temps. Les gens sont un peu réfractaires au nouveau prix du vin d'Alsace parce qu'on les a pas habitués à ce que les vendeurs, que vignerons assument ce qu'il fait,
oui,
finalement,
oui.
Parce que qu'il estime que c'est le prix juste, et c'est tout à fait normal que chacun veut être payé au prix juste. Voilà, on veut pas être sous-payé. Les vignerons, aucun agriculteur ne devrait être sous-payé d'ailleurs, sans lancer aucun débat.
ça me semble
logique. Mais justement, à partir de quand toi t'as pris la casquette où t'es aller de l'autre côté du bureau
en tant que
professeur et le nomade? Ça a commencé
en même temps. J'ai toujours eu de la chance, entre guillemets. Je crois que j'ai du bol, hein. J'ai vraiment du bol. Non, je gagne pas l'auto, mais j'ai vraiment eu du bol. C'est en on sort un coup de téléphone pour remplacer quelqu'un pour faire une formation donc au CF Paul-Kirch.
Ouais.
De là, j'ai rencontré le directeur dans les couloirs. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites ? Et ben, je viens là pour animer une formation. Il m'a dit, ok, vous êtes qui ? Vous avez fait quoi ? Je fais, voilà, il me fait, ben, je cherche un prof pour la rentrée. Ok, d'accord, boum, voilà.
Donc c'est vraiment du hasard en fait.
Voilà. Après, okay. Pour le, ça c'est le côté CFPA. Et donc je me dis, ouais, bon, j'y vais quoi. Je dis, on y va, on se plante, on verra quoi. Et c'est là que je me suis retrouvé vraiment le côté pédagogue que j'avais, sûrement caché en moi, je pense, ça moi j'espère. Et de pouvoir retransmettre une, surtout une passion, le savoir, un savoir entre guillemets, on va dire le savoir, parce que le savoir on l'a pas, mais bon. Ça reste à être jugé, mais surtout l'envie de transmettre et surtout l'envie de vouloir faire apprendre à des jeunes et surtout leur communiquer la passion de vouloir apprendre eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est pas des cours magistraux. Donc j'arrive pas, je balance pas tout. J'essaie de leur induquer une façon d'apprendre, de rechercher aussi les informations.
Ouais.
Hein, je ne donne pas la becquetée. Mmh. Ça, je l'ai fait. Quand tu donnes la becquetée, super, machin, tu as passé 2 heures, merci, au revoir. Tu t'en vas. Non, non, c'est vraiment de leur induquer ce vouloir d'apprendre par eux-mêmes. Je leur dis, je vous ai 1 an, allez, 9 mois. En 9 mois, je vous apprends les bases, mais vraiment les bases. Hein. Mais par contre, je vais essayer de vous apprendre une technique de découverte, hein, de vouloir retrouver des informations, de déguster, que vous pourrez utiliser après pour apprendre. Moi, j'apprends juste les bases. De toute façon, j'aurais dit toujours, dans le métier, vous apprendrez tous les jours, tout le temps, jusqu'à la fin.
Quand j'étais jeune sommelier, c'était pareil. On a toujours son livre avec soi quand on est débutant. Parce qu'évidemment, on a toujours une colle et
un
client qui vous pose une colle. Ouais. Bah, le soir, il faut bûcher pour que le lendemain, on vous la repose pas cette colle.
Ah oui.
Il faut connaître. Et après, moi, j'aime beaucoup le monde qui est autour du vin. J'ai toujours dit, boire du vin, ça rend intelligent.
J'ai entendu d'autres choses, mais ça, c'est pas mal.
Bah, c'est en fait, ben, si on prend par exemple le clanuaire de Liechtenstein, donc déjà le village de Liechtenstein, l'histoire du village de Liechtenstein, tout ça, en fait, on va le trouver en recherchant des informations sur un vin, l'abbaye de à côté, pourquoi pas, tatac. Ouais. Et c'est de là. Bon, après, c'est côté peut-être aussi fan d'histoire qui me pousse. Mais quand on fait des recherches sur un vin, l'analogie en fait, qu'il y a autour du vin, le champ lexical qu'il y a autour du vin est super intéressant. Que ce soit pour la langue française, que ce soit pour l'histoire, c'est ça que je trouve magique dans le vin en fait. C'est pas juste une boisson d'un vigneron qui vient de quelque part, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour qui est incroyable, quoi. Et c'est ça que j'essaie de réinculquer, quoi.
Et puis tu rajoutes aujourd'hui, on parle souvent des vins nature et c'est un peu ce que moi j'aime bien boire et je crois qu'on aime tous boire. Bah, tu rajoutes aussi une philosophie aujourd'hui d'une personne qui a créé un produit et qui va te raconter son histoire. Tu te dis, ah ouais, en fait, le rapport est totalement différent. Il ne vend plus pour vendre. C'est quasiment fini, quoi. Limite, ils préfèrent, si tu ne te déplaces pas, enfin, on connaît tous certains vignerons, si tu ne vas pas chez eux pour déguster, ils ne t'en vendent pas. Ah, d'accord. Donc, déjà, il n'y a pas cette obligation, entre guillemets, de vendre. Et certains l'ont, mais d'autres peuvent se permettre. Et je pense que c'est ça aussi qui a évolué. Mais justement, alors je vais te poser la même question. Mais en parlant de l'élève, est-ce que tu as vu une évolution chez les élèves? Alors bien sûr, il y a Internet qui est arrivé, toi-même tu as répondu à la question. Mais comment tu as vu arriver
l'évolution?
Il y a deux camps, les anti et les pros.
Il y a les gens qui comprennent, les élèves qui ne vont pas comprendre les vins nature ou qui n'ont pas l'éducation du vin nature parce qu'ils travaillent dans des restaurants où le vin nature n'est pas présent. D'autres où des vins nature seront présents, donc il y a une ouverture d'esprit qui est plus importante, et d'autres qui sont venus au vin à cause des vins nature.
D'accord.
Grâce au vin nature.
Ouais.
Et c'est ça qui est super intéressant. Donc on a un sort de mix and match dans la classe. Après, j'ai commencé en 2015, ça fait 6 ans. Et ça fait sur ces 4 dernières années où j'entends parler du vin nature. Et les vins nature sont à mon programme cette année avec le saké et le cidre.
Okay.
Donc je vais faire des cours spécialement sur les vins nature.
Okay.
Parce que les vins nature, donc on ne va pas parler de Noma, mais des grands restaurants, 3 Mac. les grands restaurants gastronomiques autour du monde ont que des vins nature à leur carte. Que moi, en deux Mac, j'en avais un, c'est la pierre. Donc il y a vraiment une grosse évolution. Pourquoi ? Les vins nature, ce vin libre, cette sensation de fluidité qu'on a dans le vin au niveau des arômes, ces acidités, cette texture, ces matières qu'on a, s'adoptent à une cuisine moderne, à la cuisine moderne qu'on trouve maintenant. Moi, je pensais souvent à certaines cuisines fusion où on travaille tout le temps sur ces acidités, sur l'onami. Et les vins nature sont vraiment top pour ça.
Mais justement, par rapport au vin, à ta cave, aujourd'hui, il y a quoi ? Comment elle est constituée ? Alors, sous forme d'agriculture, quelle est, il y a du les traditionnel, ouais, à peu près.
Alors, si, par exemple, là, on est dans le carré Alsace. Aujourd'hui, sur notre gamme Alsace, tout le monde est soit certifié bio-biodi ou en cours de certification. Certains étaient très raisonnés pendant très longtemps. Je pense par exemple avec Stéphane Vance, avec qui on travaille depuis quasiment le début aussi, qui est à Mittelbergheim, qui était toujours très raisonnable. Maintenant, il a depuis 2020, il est logo TAB et finalement, ça ne lui a pas demandé beaucoup d'efforts puisque sa culture en était très proche. Et donc sur l'Alsace, on est 100%. Le reste, j'ai envie de dire, on doit être 80-90% entre bio, biodynamie et nature, quoi. J'ai peut-être 20% de nature et ouais, 60-70% sont biodynamie. Ce qui va nous rester, qui ne l'est pas, ça va être un peu les entrées de gamme parce qu'on voulait toujours garder quelques vins très accessibles aussi pour une clientèle, notamment les étudiants qu'on a à la Cruteno.
Bien sûr.
Mais voilà, dans cette gamme conventionnelle, il y en a moins en moins. Puis après, il y en a quelques-uns qu'on sait être très proches, mais s'ils ne sont pas certifiés, on ne le mentionne pas comme bio. Là, on estime que si c'est bio, si c'est logoté, quoi. Enfin, si c'est certifié.
C'est le label, ouais.
Mais bon, on sait que certains en non labellisé en sont très très proches, ouais, ou sont en cours de route. Donc ça a pris une proportion importante. Et là, je rejoins Christophe, c'est qu'aujourd'hui, la gastronomie aussi fait un gros boulot dans ce sens. Enfin, c'est même pas qu'elle fait un boulot, c'est que les jeunes sommeliers, certains sont plus que convaincus, sont vraiment formés presque qu'à ça, même pour certains. Et on voit effectivement que la culture du vin naturel, elle se développe beaucoup avec la nouvelle gastronomie. Et pour moi, c'est les restaurateurs qui sont la clé parce que eux peuvent faire découvrir les vins à table, en accord. Là où nous, on envoie une bouteille à la mer, un peu, ouais, j'ai envie de dire. Les gens vont l'ouvrir. Est-ce que ils vont être déroutés quand ça pétille un petit peu, ou alors que le sommelier, lui, va pouvoir faire ce travail de mettre le vin en condition, même de changer le verre s'il voit que le client est vraiment réfractaire, pour éviter de créer un espèce d'a priori négatif, quoi. Parce que souvent c'est ça, c'est qu'on a une expérience négative. Et après, parfois, on se braque un peu en disant non, les vins nature, moi, j'aime pas. Les vins nature, c'est comme les conventionnels, il y a une diversité énorme. Peut-être certains vous conviendront pas et d'autres vous allez adorer. Donc, pour moi, c'est une bonne chose aussi que la sommellerie s'y penche. Ouais.
Justement, maintenant, on va parler des adultes. Mmh. Parce que toi, tu formes beaucoup de restaurateurs, c'est ça ? Ou beaucoup de restaurants ?
Alors, beaucoup de restaurateurs, oui, en tant qu'en formation. Donc, c'est des restaurants où il y a une demande, en fait, de formation sur le vin. Alors, bien sûr, quand on parle du vin, j'amène des échantillons, j'amène des bouteilles. Bon, bien sûr, la plupart du temps, moi, ça va être tout le temps, c'est en biodynamie minimum, ça va être le AB, voire nature. Mm-hmm. Mais aussi, je leur explique que c'est aussi un parti pris quand il y a énormément de gens qui vont au restaurant pour boire, entre guillemets, des vins nature ou des vins bio, quoi. Après, c'est plutôt aussi de la connaissance viticole, donc des régions, de la vinification, de savoir comment est fait un vin, pourquoi ça a le goût-là, et les accords. Mais ça, c'est vraiment la formation que je fais sur des jeunes adultes, voire seniors.
Et justement, toi, qu'est-ce que tu aimes bien boire ? Plutôt conventionnel ? Maintenant, tu bois encore du conventionnel ? Ou toi aussi, d'ailleurs, je vous pose la question tous les deux.
Moi, j'en bois encore, alors par curiosité.
Ouais.
Par curiosité, c'est toujours intéressant, parce que bon, je reste, entre guillemets, sommelier à la base. Hein, bon, je goûte quasiment tout. J'aime goûter encore des conventionnels. Bon, je sais que j'aime pas. Mais la plupart du temps, je bois quand même nature. C'est vraiment bien une amie nature. quasiment que ça même.
Et toi ?
Ouais, moi 95%. C'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que je me braque pas, et je trouve qu'il faut goûter plein de choses, et de toute façon, si tu veux boire que du nature, t'es coincé à aller toujours aux mêmes endroits. Si à un moment donné, tu vas au resto, il n'y a pas forcément une carte de vin nature, on n'a quand même pas envie de boire que de l'eau. Mais si le restaurateur a fait l'effort de mettre ne serait-ce que certains bons producteurs, on est quand même content de goûter. Il y a des choses qui sont bien faites, où on peut quand même avoir plaisir sur des choses qui sont conventionnelles, raisonnables, je veux dire, pas de la grosse cavalerie non plus. Oui, il faut goûter, il faut rester ouvert, je pense qu'il ne faut pas se fermer complètement. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, oui, c'est des vins naturels, des vins naturels bien faits aussi. Ouais, c'est là où je vais le plus m'éclater.
Oui. Ah, mais c'est sûr, même en consommation. Après, les vins conventionnels, c'est toujours intéressant de les goûter. Bon, encore, comme dit si bien Benoît, il y a des conventionnels propres, entre guillemets, on va dire, où c'est pas.
Pas labellisé.
Il n'y a pas labellisé, où c'est un parti pris. Et j'aime bien goûter les vins de gros cochons, où là, ils n'ont pas hésité. Et là, on le ressent, mais c'est intéressant, parce que tu dis, ouais, ils ont quand même bien abusé, quoi. C'est surtout des vins que j'utilise, entre guillemets, pour soit boire un verre, deux verres, ou quand j'ai des invités qui sont à la maison qui ne boivent pas du tout de nature, hein, donc c'est pour m'éviter, me retrouver à boire tout seul. Mais non, mais c'est vrai, mais des fois, on sent vraiment. Et je trouve que c'est important de goûter les vins à défaut, je te le dis, hein, goûter des vins à défaut, ou des vins vraiment conventionnels qui sont vraiment, vraiment levurés, vraiment travaillés, sur cuve, et on le sent. Et on le sent, ça fait 20 ans que je bois les vins en biodynamie. Et on le sent, et on se dit, ouais, on sera peut-être un petit peu abusé quand même. Et je trouve ça intéressant. Après, c'est pas, comme je dis, c'est pas des vins que je boirais tous les jours, ça c'est hors de question, quoi.
Et vous-même, vous poussez encore la porte de caviste ?
Oui, bien sûr.
Pas de supermarché, vous achetez jamais vos vins au supermarché ?
Non. Bon, déjà, il y a un peu de stock.
Un peu de stock chez vous,
évidemment.
Oui.
On a toujours,
ça, c'est plutôt un avantage.
On est toujours à la bourre dans ce qu'on aimerait goûter. Après, il arrive bien sûr d'aller chez les confrères aussi. Hein. Moi, j'ai aucun problème à aller voir des confrères quand j'ai envie de goûter tel ou tel, ou de changer un peu de ce qu'on a, même si on en a beaucoup. Des fois, on a l'impression presque d'avoir fait le tour, alors que c'est pas vraiment le cas.
Ouais, mais c'est ça. Ouais.
Et puis, surtout quand je vais dans d'autres régions. Si je suis pas dans une zone viticole, passer chez un caviste, c'est comme d'aller dans un magasin de jouets, quoi. Moi, j'ai toujours plaisir à aller voir ce que font les collègues.
C'est comme chez un bibliothécaire.
Voilà, du vin.
Bah, Christophe, foire au vin ou pas ? Tu fais les foires au vin ?
Foire au vin, tu veux dire
en grande distribution.
Je ne vais pas en grande distribution. Je mets rarement. Je vais peut-être au supermarché une fois tous les deux mois.
D'accord.
Ouais. Quand j'y vais, c'est pour acheter de l'eau.
Bah, c'est bien aussi.
Ouais,
je vais acheter
de l'eau et peut-être certains fruits. Bon, surtout, je pense tout le temps au petit Super U qui fait un joli travail sur ses légumes et ses fruits. Place du Corbeau, là.
Ouais.
C'est là que je vais acheter de l'eau. C'est le seul moment où je vais rentrer dans un supermarché, sera celui-là.
Okay.
Et je dis, c'est juste pour acheter de l'eau, quoi.
Okay. Moi, je regarde toujours les rayons de supermarché quand j'y vais. Moi, j'y vais pas non plus très souvent. Mais c'est plus. Je crains toujours un petit peu ces circuits parallèles, hein, ce que beaucoup de vignerons connaissent. C'est vrai qu'ils n'ont pas. Ces vignerons qui n'ont pas envie d'être en grande distribution et dont les vins s'y retrouvent quand même parce que le supermarché a envie de jouer cette carte-là et de s'en servir un peu comme d'un appât. Voilà, donc ça, moi, j'ai toujours une petite veille quand même sur ce qui se fait.
Surtout qu'on a eu pas mal de retours ces derniers temps sur Internet. Internet a permis de mettre en lumière quand même une partie du métier qui n'est pas forcément très positive.
Ah, c'est la face cachée du vin, mais ça, c'est pas nouveau aussi. Hein.
Mais bon,
il peut y avoir des supermarchés indépendants qui font un boulot meilleur que d'autres, et tant mieux. Après tout, une amélioration de la qualité, c'est favorable pour tout le monde. Mais par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi mettre dans leur rayon des vins de vignons qui ne veulent pas y être. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais bon.
Parce que s'ils savent que ça fait vendre et que
ça attire. Ça attire.
La pierre, ça attire. D'ailleurs, ça attire.
S'ils s'estiment passionnés de vin, ils devraient respecter la volonté du vigneron. Donc ça, pour moi, c'est antinomique, mais bon.
Le business.
Ça, c'est le business. C'est
Est-ce que le business va toujours avec les valeurs ?
C'est ça.
Non.
Vous avez gagné.
Là aussi, il y a un grand débat. Ouais.
Que nous n'allons pas faire maintenant. Et de toute façon, c'est un débat qui ne m'intéresse pas. Je préfère parler de vous. Mais justement, parce que tu organises des soirées dégustation. Oui. Toi, t'es coach en dégustation. J'aime bien t'appeler coach en dégustation. Alors, en tout cas, t'es aussi passionné par la dégustation. Oui. On a même eu un débat sur le WSET il y a quelques temps où on sent qu'il y a les pros, les contres, où c'est un peu compliqué. Mais oui. Et de plus en plus, alors il y a de plus en plus de soirées dégustation aussi. On sait que il y a différentes formes de dégustation entre la dégustation analytique,
intuitive,
intuitive et géosensorielle. Mmh. C'est aussi un marqueur d'évolution du consommateur finalement.
Oui, après la dégustation, donc on a toujours beaucoup travaillé sur la dégustation analytique, qui est analytique sensorielle, c'était intéressant, ça, c'est ce qu'on apprend à nos jeunes sommeliers. Après la géosensorielle, on va dire qui entre guillemets arrivée dans les années 60, mais qui existe depuis quand même énormément de temps. On en parle déjà au temps des Romains, je pense, sur les gourmets, pour identifier l'origine des amphores. Hein, il y avait déjà de la magouille dans le vin à cette époque. Donc il y avait d'où le mot gourmet. Donc il y avait ces gourmets qui faisaient la géosensorielle, en fait, pour comprendre, trouver, entre guillemets, imaginer d'où venait le vin. Après, moi, la dégustation intuitive que je maîtrise pas, j'en entends beaucoup parler. Alors, ça paraît assez intéressant, ce côté intuitif du vin. Là. Mais je suis plus quand même dans l'émotion, dans la compréhension du vin. Bon, après, la géosensorielle, j'ai toujours mis un cru, un terroir, un sol sur un vin. Quoi. Moi, c'est la base depuis que j'ai commencé dans le vin. C'est ce qu'on m'a appris, en fait. Hein. Première grande découverte géosensorielle, c'était avec un Chablis premier cru, Montée de Tonnerre, VS, un Meursault Charme, histoire de comprendre un peu l'influence du sol, des terroirs et sur les puissances du vin. Quoi. Et c'était un petit peu, j'ai toujours travaillé comme ça. Quoi. Après, mais c'est des dégustations qui sont quand même très très intéressantes. Et je trouve que c'est bien aussi de faire comprendre aux gens. Parce que c'est déjà l'essentiel, l'importance du sol, du terroir, du climat et de la personne qui...
Et puis aujourd'hui, il y a aussi un marché qui a explosé, c'est que le vin orange, c'est ce qui se vend de plus en plus. Moi, je crois c'est ce que je bois maintenant de plus en plus.
Oui, c'est dans le cercle d'amateurs de vin naturel, c'est sûr que ça a pris une place importante. Après, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de consommateurs qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est.
Ah, bien sûr, oui, mais c'est ça qui est drôle. Oui, c'est pour ça que moi, c'est là où je rejoins Jean-Michel Deiz, j'aime bien le vin air noir.
Oui.
Ça permet. Oui. J'ai même fait en tant que serveur des services avec des verres noirs. Oui. Où les gens choisissaient la bouteille, ils savaient pas ce qu'ils buvaient en fait.
D'accord.
Ah, ouais. Et c'est à la fin où je leur disais, voilà, vous avez bu ça. Ah ouais, mais je voulais pas de
rouge. Le verre noir, c'est bien. Ouais. C'est vrai que le verre noir.
Mais c'est bien parce que.
Mais les macérations, ça offre aussi des possibilités en termes d'accord aussi et de surprises aussi magique. Pour le client qui est génial. Et là aussi, les restaurateurs, ils pourraient en jouer plus. Et je pense qu'on n'a pas encore tellement exploré les accords, pas suffisamment, à mon avis. Il y a encore beaucoup, beaucoup à réfléchir. Et voilà. Et je pense que le restaurateur qui va mettre en avant un ou deux vins oranges, en le faisant goûter à ses clients de fois en temps, en jaugeant un peu qui est un peu curieux ou pas dans sa clientèle, il marquera des points. Et ça, il faut pas qu'il oublie, c'est que le vin, comme expliquait un peu Christophe, ça peut être vraiment un vecteur ça peut être un plus pour le restaurateur, ça peut ramener du monde, ça peut faire parler les gens. C'est aussi un vecteur de commerce aussi pour les restaurateurs.
Bien sûr. Mais c'est vrai que l'évolution est là. Justement, parle-nous de tes soirées dégustation, parce que c'est quand même très. Je crois que c'est tous les mercredis soirs.
Mercredi, samedi, on fait même deux par semaine, parce qu'on a une assez forte demande. Donc ça nous fait très plaisir déjà de retrouver les gens qu'on n'a pas vu pendant un moment. On a eu le droit quand même d'ouvrir et puis de livrer, donc on a continué d'avoir un lien avec nos clients, et tant mieux.
C'est pareil.
Mais de pouvoir recevoir sur place, c'est important. Et comme je disais, dès 2007, j'ai commencé à le mettre en place avec des tout petits groupes. Donc il y a quand
même
des.
Vous animez tous les deux
Oui, on anime tous les deux. Alors en ce moment, c'est plus Christophe, mais moi, on anime tous les deux. On a un petit peu chacun aussi nos thèmes de prédilection.
Tout à fait, oui.
Et puis il peut arriver aussi qu'on fasse intervenir quelqu'un d'autre, c'est plus rare. Et donc depuis quasiment 2007, ce qui a permis de lier des liens assez forts avec certains clients aussi, justement, on passe plus de temps avec eux, c'est ce qui est agréable aussi. Et l'idée, c'est que ce soit justement pas un cours magistral, le même principe que ce que disait Christophe. C'est déjà, ce sont des particuliers qui veulent pas devenir des professionnels du vin. C'est des particuliers qui aiment le vin, qui ont envie d'en savoir plus. Donc, nous, on veut pas les laisser partir sans un petit peu de connaissances en plus, mais on veut pas leur en donner trop d'infos. On veut pas leur donner mal à la tête. Voilà, c'est pas l'objectif.
C'est pas l'école, quoi. On n'est pas à l'école.
On passe un bon moment. C'est convivial. Relation, alors, bien sûr, d'abord, on explique un petit peu au début. Et puis, comme les gens connaissent pas, sont un peu intimidés au début, sont très sages. Donc, on en profite pour leur donner toutes les infos qu'on a envie de leur donner, surtout au début. Amener un petit peu de vocabulaire de la dégustation, amener un petit peu de géographie viticole, parler des cépages, ça dépend du thème évidemment aussi, hein, parce qu'on a différents thèmes. Et après, on goûte, on goûte à l'aveugle généralement, et on les accompagne dans la dégustation, c'est-à-dire qu'on commente la dégustation et on essaye de les amener aussi à eux commenter un petit peu au fil de la dégustation. Alors, souvent, il faut attendre le troisième, quatrième vin pour que les gens commencent un petit peu plus à oser. Voilà, et même si on est raisonnable aussi dans les quantités qu'on sert, hein, puisque l'idée aussi, c'est une dégustation. Ça reste une dégustation.
C'est pas une soirée beuverie, donc vous pourrez rouler sans problème.
Et puis, alors on met aussi bien sûr des choses à grignoter aussi. On met un petit fromage, une charcuterie, des petites choses en accompagnement. C'est sûr que si on veut déguster professionnellement, on goûte, on n'accompagne pas les vins, on accorde les vins. Après, c'est pas le cas. Là, on goûte et puis on grignote et puis on va goûter autre chose et on grignote. C'est pas trop académique, ouais, mais faut qu'on allie un peu de connaissances et beaucoup de plaisir surtout, quoi.
Alors, il y a autre chose qui m'a fait sourire la dernière fois. J'ai appris que tu avais une relation assez sympa avec le restaurateur à côté.
Oui.
Et que de temps en temps, les clients ils viennent chercher des bouteilles chez toi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le restaurant Paulus qui est juste à côté. En fait, dès le départ, il a voulu mettre en place le droit de bouchon chez lui, ce que les gens n'osent pas trop faire. On n'est pas trop habitué en France à ce principe du droit de bouchon. Ouais, ou à l'étranger, je sais que les Canadiens sont très habitués à faire ça, mais donc ça prend assez peu. Alors, post-Covid, quand il y a eu la réouverture, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une terrasse commune. Donc, on a fait tout l'été terrasse commune. Il a mis en place des plats en petite version et nous on a servi les vins, donc ça nous a permis d'avoir une grande terrasse ensemble, et donc nous on a fait que la partie boisson et lui a fait toute la partie nourriture. Et puis comme c'est sympa, nous on n'interdit pas aux gens, bien au contraire, même on les incite, s'ils ont envie de prendre un plat du jour et de le manger chez nous, il n'y a pas de souci qu'ils prennent un plat chez Paulus. Même j'ai envie de dire, s'ils ont envie d'aller chez nos autres voisins, Pontchâtre, Transsibérien ou autre, on est ouvert à ça. Nous on est là pour faire découvrir le vin, donc s'ils ont envie de manger quelque chose de chaud, de cuisiné, nous on peut proposer que des tartines, des planchettes et des fromages, des choses comme ça.
Oh, c'est bien finalement d'avoir une.
Et voilà.
Et cuisine est bonne.
Et à vice versa, si les gens ont envie de prendre une bouteille et de la consommer, c'est toujours possible.
Michael cuisine bien, c'est plutôt ça.
Ah non, c'est très bon ce qu'il fait. C'est vraiment.
Cuisine fraîche de marché.
Donc j'ai les copains qui ont pris leur quartier, qui viennent de temps en temps le midi. On prend les plats du jour, on les mange ici, on boit un canon et c'est très sympa. Ouais.
Et ça rend les gens heureux.
Ah bah c'est ce qu'il faut.
En fait, c'est la définition du bonheur, ça. Un beau canon, ça rend intelligent. Christophe Lindelob dirait que c'est un lubrifiant social. Alors Julien Maire le dirait aussi. Et Eric Ham te dit, au lieu de prendre un antidépresseur, bois un verre de vin, tu verras, tu te sentiras mieux.
Clair.
C'est un peu ça la recette.
Bois du vin, tu auras des copains.
C'est quasiment ça en fait.
Des copains.
Toujours avec modération, évidemment.
Stratégique pas cher, mais là,
tranquille, voilà.
Toujours modération, faites votre santé, vous n'en avez qu'une, donc c'est pas parce que.
L'objectif, c'est de se goûter des choses en quantité.
Vivons moins, mais mieux. Faisons-nous plaisir. Justement, en parlant de dégustation, est-ce qu'on on se ferait pas une petite dégustation?
Avec plaisir, on va ouvrir.
Birkin time, les bateaux. Birkin time.
Bien, on est de retour pour cette dégustation. Alors, je crois que c'est toi, Benoît, qui commence.
C'est moi qui démarre.
Présenter le vin. Alors, vas-y, je te laisse.
Alors, moi, j'ai choisi un rouge parce que déjà, j'ai envie de parler des vins rouges en Alsace, puisque le podcast est très largement consacré au vin d'Alsace, j'en profite pour saluer le gros travail des vignerons sur les rouges alsaciens. On se régale de leurs rouges et on leur dit merci. Parce que
c'est incroyable.
À chaque fois qu'il y a un événement, là, comme par exemple à la Summerfest, on fait la série des rouges et il n'y a rien acheté. Quoi. Tout est bon. Tout est différent aussi. On ne cherche plus à copier nos voisins bourguignons, dont on adore les vins, mais on a envie de boire des rouges d'Alsace, pas des rouges de Bourgogne. On veut boire voilà, des vins identitaires. Et donc voilà, donc j'avais envie de mettre un rouge alsacien avec une couleur déjà assez profonde, mais tout en gardant cette petite touche translucide qui est vraiment typique quoi, du cépage. Et il y a une petite vol, hein, on parlait voilà, des fois des natures, il y a une petite vol, mais là... bon moi ça peut me déranger quand c'est très marqué, mais là je trouve que ça porte un tout petit peu les arômes quoi. Ça les fait monter un peu et je trouve que c'est plutôt agréable et ça donne du peps aussi quand on va le goûter. On est chez Yann R à Gerdwiller. C'est un vigneron qui est assez peu connu je trouve par rapport à ce qu'il fait. Il fait des jolies choses. Alors lui justement il est en conversion, ça fait longtemps qu'il a démarré son travail en bio, mais ça fait pas trop longtemps qu'il a démarré la conversion officielle. Parce qu'il y avait aussi une grosse partie de vrac toujours au domaine, mais ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que petit à petit ça va tendre vers plus en plus de bouteilles. Et il fait pas mal de choses un peu atypiques, originales. Il fait beaucoup d'essais, il fait des longs élevages, il fait des vins sous voile, il y a plein de petites barriques comme ça chez lui où on sait pas trop ce que ça va être, et si un jour ça sera commercialisé, si ça va être assemblé ou pas, mais voilà, en tout cas il y a une volonté de faire des choses différentes, intéressantes.
C'est un alchimiste.
Peut-être, oui. Il y a aussi quelques classiques hein, quand même hein, dans la maison R, mais là on va goûter le pinot noir le pinot noir Berg, donc d'une sélection parcellaire, hein, le Berg qui est un lieu dit qui se rapproche de, qui est vers Mittelwerkheim. Mm-hmm. Et il y a un petit peu d'élevage. Parfois, il a eu tendance à boiser peut-être un petit peu les vins pour le goût de certains. Là, petit à petit, les barriques ont déjà un petit peu servi. Donc, on a un boisé qui, je trouve, bien intégré, assez discret. Voilà, une jolie note de fruits, rouge acidulé un petit peu.
Bah, l'aromatique est très bonne. Hein. On est vraiment bon, on a l'aromatique un peu.
Moi, j'adore. Moi, j'ai toujours été un grand fan.
Toujours fan de Pinot Noir ?
Ah, toujours, hein, toujours. Ah, en Alsace, oui. Ouais. Après, moi, je suis plutôt quand même cépage. Je suis plutôt sur la Syrah, plutôt sur la Grenache, ouais, pour les rouges, les Cabernet Sauvignon. Bon, j'aime les vins chaleureux. Le Pinot Noir, ben, moi, c'était la Bourgogne, c'était la Nouvelle-Zélande. Un peu moins l'Alsace. C'était l'Allemagne aussi. En fin de Pinot Noir allemand, ça paraît bizarre, mais il y a des trucs qui sont superbes. Et quand je suis arrivé en Alsace, bon, j'ai eu les premières révélations. Ben, on avait le Lambert de chez Dice, mais ça, c'était connu, reconnu, rebu. Et c'est vraiment en Alsace que j'ai redécouvert le Pinot Noir avec des vieux millésimes, des 67 et des 47. C'était du Pinot Noir de chez Bayer, où je me suis vraiment intéressé. Et après, ben, là, bien sûr, l'évolution du Pinot Noir en Alsace, où on s'est bien senti qu'il y avait quand même un gros potentiel. Et il faut arrêter de dire que le Pinot Noir alsacien, ça sert du frais, et léger, et ça sert pour les merguez. Hein,
ça c'est vrai. Arrêtez de les mettre au frigo, s'il vous plaît. Mettez-les dans une cave à vin à 15 si vous avez envie de les servir frais, mais arrêtez le frigo.
Ah, mais, je suis pareil. Je suis un anti. Alors, de temps en temps, les gens me posent la question. J'ai dit, si tu fais beau à la rigueur, pourquoi pas? Par contre, vous le faire évoluer sur la table.
Oui, ça, légèrement frais, voilà. C'est très agréable. Mais froid, glacé, non.
Mais c'est vrai que ça, ouais, voilà. Là, vu l'aromatique qu'il a, bah, ce serait dommage de le mettre au frigo.
Il y a des gros terroirs à Pinot Noir en Alsace. Hein,
bien sûr.
On va tous les citer, mais ouais, non, il y a des super trucs. Soit Fronholz, Rodern, Lorne-Bergheim.
Avec Fig, le Fronholz.
Aussi, oui.
Tellement de trucs. Hein. Peut-être encore des sûrs, je suis sûr qu'on va encore trouver des terroirs. Ah, bah,
bien sûr.
En Alsace, bah, du coup, qui vont donner des pinots noirs.
Avec le travail des vignerons.
Est-ce que le pinot noir en Alsace mériterait d'avoir un grand cru?
Bah, ça va être le cas, hein, a priori, hein, avec le Hengst en tout premier. Hein,
ouais, et prévu,
et le Kirchberg 2023, de Bar, on m'a dit aussi.
Et le Kirchberg aussi.
C'est certain que le Hengst est un très très beau terroir à rouge. Hein. Nous, on travaille pas mal avec Denis Ebinger, dont on aime beaucoup les vins, et qui a un petit peu de Pinot Noir sur le Hengst. Et puis là, on a référencé aussi le Pinot Noir de Paul Gachy, qui est sur le Hengst, les vins, ils ont une densité et une texture qui est incroyable, c'est superbe. Bah, on connaît aussi, bon, bien sûr, les vins de Albermann aussi. Bon, on sait qu'on peut faire des grands vins sur ce, sur ce terroir.
Kumpfmeyer aussi. Hein,
Kumpfmeyer, ça reste aussi une valeur sûre dans le rouge, et puis il n'y a pas que les rouges. Ouais.
Le Weingarten, le Westerberg et le Schieferberg de l'autre côté. Alors, les mecs, ils veulent absolument qu'ils le considèrent déjà comme un grand cru.
Ah oui.
J'ai fait les vendanges chez Théo Einhardt. Ça, on était sur le Westerberg. À la limite, c'était le gros cru, tu vois. C'était. C'est magnifique quand ils sont. Quand tu rencontres. Entends Régis Barnes parler du Schieferberg ou Arthur Bone, c'est pareil. Oui. Voilà, c'est.
Moi, je pense que c'est des terroirs qui vont gagner en notoriété, à un moment donné. Parce qu'il y a des vignerons aujourd'hui qui le subliment, qui subliment ces terroirs. Donc, je pense que peut-être il y aura une évolution. Après, on sait que l'INAO, ça bouge doucement. Donc, s'ils veulent le faire évoluer, bon, ça sera.
On va dire
ça
que l'INAO en Alsace bouge beaucoup plus lentement que l'INAO à Bordeaux.
Peut-être, oui.
Sud Bordeaux, il a plutôt tendance à faire des procès.
Mais c'est vrai un peu de texture.
Je trouve que ce vin est très aromatique. Il a au palais, il claque bien. Mais c'est vrai que c'est le genre de vin. Enfin, je vois la bouteille, je ne la prends, je la regarde même pas en fait. Ah, pas parce qu'il n'y a pas le label bio et limite si tu me dis comment il travaille, mais je sais pas. Je trouve.
Et l'étiquette, le style, un peu classique. Oui.
Ça, c'est le grand problème.
Autant le vin est sexy à mourir, et ça, c'est un super vin, et ça plaît à tout le monde. C'est propre. Voilà.
Oui. C'est accessible. Hein. Il y a cette petite vol, mais ça devrait pas déranger grand monde. Oui. Peut-être que les œnologues, puristes, chasseurs de défauts vont peut-être le considérer comme un défaut. Oui. Moi, je trouve que dans ce vin, ça lui donne du peps. Parce qu'on a une super texture en bouche, très, très pulpeuse. Si on ne l'avait pas, cette fine acidité-là, peut-être qu'on s'endormirait un petit peu. Et là, on a d'abord une caresse, puis ça réveille un petit peu, tout en restant très équilibré. Mais effectivement, le visuel, il est très classique de ce vin. Peut-être que c'est un peu. L'étiquette est un peu classique. C'est sûr qu'aujourd'hui, on assimile beaucoup vin naturel et étiquette décalée. Peut-être que c'est le défaut inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vin nature a allé loin et que quand on a une image un peu classique, on pense que c'est pas nature.
On est venu à matière de bière aussi, qu'on voit aussi l'évolution. Moi, je pense que les deux sont un peu à mettre en. J'ai mis en parallèle.
Oui.
Mais c'est vrai, mais parce qu'on est aussi dans un monde.
Les bières, les réseaux sociaux aussi.
Les réseaux sociaux
jouent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des étiquettes très reconnaissables et très différentes. Des fois, ça fait parler.
Il y a des vignerons nature qui font des étiquettes.
Plus classiques.
C'est quand même bien moche. Hein. Faut pas citer les noms.
Certains, j'accroche pas du tout. Et c'est comme ça. Mais il y a aussi une évolution qu'ils ont eue.
Après, le plaisir aussi, c'est qu'on les connaît, ces vignerons, et quand on ouvre une de leurs bouteilles, on regarde l'évolution aussi. Et avec le temps, ce qui est chouette, c'est qu'on grandit avec eux, on voit évoluer leur vin. C'est ça aussi qu'on aime, c'est que voilà, on ne boit pas juste un coup, c'est qu'on connaît l'envers du décor, le travail que c'est, ça rajoute du plaisir, quoi.
Et puis c'est aussi le but, hein. Ça permet aussi de mettre en avant, nous peut-être qu'on n'y serait pas allé comme ça, parce que nous c'est vrai qu'on essaye de rester dans le courant bio, biodynamie, nature, je pense qu'on est plus dans la biodynamie nature avec Adrien, et c'est aussi l'angle qu'on a voulu mettre, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je pourrais aller voir.
C'est super
connais.
Parce qu'il fait, attention, c'est
minime. Hein, il faudrait que je redemande sur 2019, mais je suis même pas sûr qu'il ait sulfité. Et s'il a sulfité, il a mis 20 ou 30. Ouais. Il est toujours très très bas en soufre, et il a plusieurs cuvées sans soufre. Il y avait une cuvée un peu emblématique qu'on avait vendue longtemps, en 2011, c'était Pinocchio, c'était les trois pinots, 16 mois de barrique, zéro soufre. Et moi j'ai ouvert en 2011, il y a 15 jours, c'est génial, quoi. Génial. Et il n'y a pas un Il n'y a pas un pet d'ajout dans ce vin. Quoi.
Son prénom, c'est Yann, c'est ça ?
Yann, oui, Yann R.
À Guerbuller.
C'est aussi pour ça que j'ai choisi. C'est vrai qu'il est un petit peu méconnu et puis il a un petit côté timide aussi. Ouais. Donc il se vend peut-être pas toujours bien. Et pourtant, il fait un bon boulot. Quoi, donc,
toute la belle découverte et ça fait plaisir. Voilà, comme quoi, on est à place au deuxième vin.
C'est parti.
Un petit service de saucisson.
Voilà.
Ça rend heureux, ça. Ah bah oui, ça c'est bon. C'est bien.
Alors c'est vrai qu'on a choisi des vignerons qu'on connaît bien aussi. Ouais,
ouais bon là c'est plus le côté émotion, ne serait-ce que par le vigneron que je connais. Le terroir aussi, que j'adore. La macération, c'est dessus. Quoi.
Et je crois qu'on l'a déjà... je vois la bouteille, donc je sais qui c'est.
Bon. Ouais, je sais, j'ai pensé aussi, j'ai me dit, ouais, soit on fait goûter autre chose de différent, soit...
Non, ouais, c'est bon, bien parce que.
J'avais demandé une qui, l'avignon, que j'aimais beaucoup.
Je me disais il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, il faut absolument que je lui écrive là. Et c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il y a une patte et qui évolue, justement, on voit l'évolution.
On a vraiment suivi parce que ça fait un moment qu'on le connaît, Christophe encore plus que moi. Ouais.
Bah, du coup, je te laisse présenter.
Tout simplement, donc Yves Seminaire, macération de chez Philippe Brandt à Ergersheim en 2020. Comme je disais, Philippe Brandt, quand je goûte les vins de Philippe, j'ai toujours des émotions. C'est ça qui me plaît avec lui, avec ses vins, c'est j'ai toujours des émotions. J'ai toujours un moment de réflexion quand je goûte ses vins. Plus c'est blanc, c'est rouge, même si j'aime beaucoup ses cuvées avec... Les Fables de la Fontaine, hein, sur les vins et ailleurs élevés ici, hein, que je trouve superbe. Hein. Mmh. Après, c'est pareil, c'est des vins, il faut toujours attendre 2-3 ans avant de les goûter. Parce que quand tu les goûtes, quand ils ont 1 an ou 2 ans, tu dis ouais, bon bref, et quand tu les goûtes 3 ans après, tu dis purée, il m'en faut encore, bien sûr, il n'y en a plus. C'est toujours la même chose.
C'est un peu le problème avec Philippe. Mais tant mieux pour lui. Hein.
Ah, tout à fait, oui. Mais voilà, et c'est vrai que déjà, parlons du terroir, hein, c'est le Kefferberg. Hein. C'est des vins qui sont ici un Gewürz qui est ici du Kefferberg, qui est pour moi. Magique, hein, calcaire, ouais, marno et calcaire, et je trouve ça franchement magique. Alors, j'y vais quand même de temps en temps dans le Kefferberg, et c'est pareil, c'est toujours, je ressens des sortes d'émotions, de force, hein, du lieu-dit, hein, le Kefferberg, et c'est ce que je retrouve dans le vin. Donc, il y a une émotion qui est physique quand j'y vais, entre guillemets, l'aura du. L'énergie qu'on peut ressentir dans les vignes.
C'est le horn qui est à Volxheim qui donne cette aura-là.
Toujours dit, il y a la chapelle, il y a le horn, des fois, bon...
Il y a les Schlegel.
Quelque chose de mystique.
Moi, je suis côté un peu mystique, ésotérique, tellurique. Moi, j'ai quand même... J'y crois un petit peu quand même. Hein, il y a des vies, elles sont là, c'est pas par hasard, des fois. Il faut quand même se dire. Hein. Mais c'est toujours
moi,
cette
force. Moi,
je
commence à y croire aussi. Il faut déguster un vin jour feuille ou jour fruit.
Bon, ça...
Ça,
un petit peu. Non, bon.
Ah ben, on a eu quand même un passade avec les vendanges où beaucoup de vins nature qui goûtaient moins bien, quand même.
Ouais,
où les vins travaillaient beaucoup.
J'ai vu ça aussi, ouais.
Et on est obligé d'accepter qu'il y a quelque chose qui se passe, quand même. Au moment des vendanges, les levures travaillent, ben, les vins de l'année d'avant... Ouais. Commence à rebouger aussi. Pourquoi ?
J'ai toujours cru.
Grosse question.
Toujours. Et moi, je suis arrivé dans la bio en rencontrant Trappé Père, et Sauzet, Étienne Sauzet. Et voilà, moi, j'arrivais, donc moi, je goûtais des vins biodynamie, et bon, bref, patati patata. Et j'arrive, mais pour vous, c'est quoi la biodynamie ? Donc, je suis resté une heure et demie avec eux, ils m'ont quand même tout expliqué. On était en salon, peinard, bon, il n'y avait pas grand monde. Et on a passé avec un collègue à moi, donc c'était à Londres. Et ils nous ont vraiment expliqué la biodynamie. Donc moi, j'étais déjà un peu passionné par le côté déjà mystique du truc. Mais il y a un truc.
Oui, tout terriblement. En fait, on a toutes les versions. Hein, la version pet-nat, la version en pressurage direct et une version macération. Donc il faut effectivement pas se mélanger trop les pinceaux.
Ouais, c'est bien.
Mais une fois qu'on l'a servi, on sait tout de suite hein, si on est à faire la macération ou pas.
Oui, c'est le caligramme. Alors c'est le cheval.
Oui,
alors,
et puis c'est précisé macération, évidemment.
C'est le calligramme, de toute façon, pour tout terriblement. Pour ces gavures, ça c'est le.
Oui, il indique macération, et puis il utilise la bouteille blanche pour qu'on voie la couleur, parce qu'elle est quand même extra la couleur.
Moi je suis un pro bouteille blanche.
C'est celui où il y en a beaucoup dedans. Ah, Philippe.
Ah, Philippe, je ne connais plus les numéros.
Là, le nez, il est explosif. Hein. Déjà, on met le nez dessus. C'est hyper riche, il y a plein de choses déjà qui se passent avant même de le goûter.
Ouais, c'est
un vin qui est super, ouais.
Il y a du peps, il y a de la vivacité, J'avais l'impression que la dernière fois, il y avait un peu plus de vol, mais là, il n'y a rien.
Non, non, il y a beaucoup de matière aussi, c'est un truc très charnu.
Il y a de la matière, il y a...
Bon, après, là-bas, il y a toujours un petit peu, un tout petit peu quand même, chez Philippe qui disparaît.
Ouais.
Un petit peu de temps. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Moi, enfin, moi de toute façon, après, on connaît le bonhomme. Et
ouais, voilà. C'est pareil, on a vu.
Philippe, hein, donc,
on l'a vu prendre en main le domaine. On sait que Charles, le papa, faisait déjà du bon boulot. Et qui était assez charismatique aussi, donc fallait arriver à tenir aussi les rênes derrière Charles. Et puis il a réussi à imposer son style. Et maintenant Charles, il est complètement convaincu aussi des vins natures, des macérations. Il a le fils a séduit aussi le père avec ses vins.
On dit moi je trouve que passer derrière Dice et Charles Brandt d'un autre côté, bon même Ostertag quelque part.
Ouais, faut être accroché un petit peu, ça. Non, hein.
Après, moi, je me suis moqué un peu de Philippe, au début, quand il faisait ses vinifs, tout ça, hein, je me suis toujours un petit peu moqué de lui, quoi. Mais c'est un génie en vinification, hein, c'est un beau lire. Hein. Plus je goûte, même dans l'évolution, même quand il grandit avec ses vins, je trouve qu'il y a des pâtes qui sont incroyables en vinification.
Il a des cuvries qui sont en cours, qu'on a hâte de goûter, on n'a pas goûté encore les cuvries.
Et je trouve qu'avec les 2-3 dernières années, là, le fait que ça aille, ils vont quand même pas trop mal, et j'ai l'impression que ça se sent, donc du coup il est plus rassuré, et j'ai l'impression que les vins...
Il prend confiance, il est en train de prendre confiance,
Ouais, c'est assez dingue, moi j'aime beaucoup tout terriblement, et ça me fait assez plaisir d'avoir goûté...
Moi c'est un petit point d'amertume qu'il y a du Gewürz, tu vois, je trouve que ça enlève le vin, et t'as une structure dans ce vin qui est top.
L'aromatique, belle structure, l'aromatique, on est vraiment entre l'abricot sec, on est un petit peu sous le registre un peu herbacé, plante médicinale, quand même les petites touches un peu racinaires,
un petit peu orange,
les écorces d'agrumes, tout ça, bien sûr.
Et la puissance en fait, c'est un vin qui est super bien équilibré, qui est charmeur.
Et qui pourtant a beaucoup de caractère aussi.
Mais il a du caractère.
C'est incroyable. Ouais. Ça envoie. Quoi. Tu mets une viande blanche facilement, tu mets une viande caramélisée sans aucun problème, tu peux partir sur les cuisines. Les dim sum, là, je trouve que c'est un truc comme ça, c'est super. Ouais. Quoi. C'est super, mais sans rester dans le registre asiatique, parce que malgré les asiatique, il faut arrêter aussi quand même. Bon. Mais sur des viandes caramélisées, je trouve ça super.
Moi, je pense que ça marche pas bien. Même sur
je mettrais bien un magret de canard, effectivement.
Un petit Stilton, à l'orange. Ça serait pas mal. Hein.
Un Stilton, ouais.
Un magret de canard, ouais.
Mais effectivement, la cuisine asiatique aussi, superbe, évidemment.
Il y a de l'amertume, c'est un petit peu cette structure un peu tannique qui relève le vin et qui peut aussi bien passer avec des viandes un peu plus grasses. Moi, je trouve ça super. C'est 14 ans d'alcool, quoi.
Pour faire des Gewürz secs, souvent, on est obligé de monter un petit peu.
Kefferberg en dessous de 12, c'est pas du Kefferberg.
C'est une caresse un peu poétique, c'est pas.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un coteau que j'ai toujours adoré et que j'ai goûté sur plein de millésimes, sur de la coplantation, sur différents cépages. Et à chaque coup, je me dis, c'est quand même magique. Hein. C'est un lieu dit que je trouve génial. S'il fallait donner un grand cru, là... Ce serait le Kefferberg.
Parfait.
Mais c'est important, Philippe, parce qu'il a quasiment le monopole sur.
Voilà.
On va passer
que des loges.
On va passer à la dernière partie, au petit moment sauvage. Donc, je vais vous donner 2 affirmations. Vous me dites oui, non, ce que vous choisissez. Des questions aussi un petit peu sur ce que j'appelle moi les questions suspendues, parce que ça peut venir. Il n'y a jamais rien d'écrit avec moi, ça peut venir.
Freestyle.
J'aime bien le côté un peu freestyle et c'est mon côté libre buveur qui vient. Ton dernier coup de cœur, vin ?
J'avais presque envie de donner un autre de Philippe, mais il faut quand même changer un petit peu. En Alsace, je dirais justement le Pinocchio 2011 là, qu'on a bu il y a une dizaine de jours. Là, c'était une tuerie. On est sur de l'oxydation hyper ménagée quand même.
Hein,
non, justement chez Yann Herd, on a goûté là. Il en a refait une deuxième fois. Hein, c'est un vin qui fait que certains millésimes. Il fait des très longs élevages. Et c'est vrai que c'était dans l'esprit des grands Jura, quoi, avec des fines oxydations, mais en même temps une tension, de la minéralité. Enfin, je trouvais que c'était vraiment une très jolie quille. On peut citer d'autres régions aussi, éventuellement. Je pourrais citer Peut-être Romuald Valo, qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup les vins aussi. Et là, c'est que des jus fermentés. Tiens, chez lui aussi.
J'ai goûté le Bourgogne, le Salin.
Ah ouais.
Quel
ouais.
est le terroir?
Attends, sur les Ladois alors.
L'étiquette verte, ouais.
Ouais, c'est Ladois. On est sur l'appellation Ladois, mais qui met en vin de France parce qu'il ramène les raisins.
Mais j'ai jamais vu
dans le Beaujolais.
Alors le dernier, alors en Alsace, celui qui a une salinité dans les vins incroyable et qui me rend limite amoureux, c'est
Lissner peut-être. Lissner. Ouais.
Mais alors celui-là, en fait, c'est il y a du sel qui vient carrément en bouche.
Ouais.
Et non mais c'est pour ça.
Ah, non mais il en rajoute.
Non mais t'avais comme l'impression qu'il y a un ajout de sel en fait.
Alors
J'ai bu ça au Café des Sports, Xavier. Geoffrey, bonsoir. Et je pense que c'est un vin qui doit diviser.
C'est sûr.
Qui aime ou qui aime.
C'est sûr. Valo, c'est Beaujolais. Ouais, ce sont des vins qui peuvent diviser. Alors il y a quand même des phases où les vins ils goûtent parfaitement bien et on pourrait presque les mettre entre toutes les mains, mais il peut y avoir toujours ce moment où ils bougent un peu, où ils sont un peu plus compliqués. Donc c'est vrai que c'est des vins sur lesquels on est un petit peu prudent, mais enfin moi j'adore ces vins. Ouais, je trouve
le calque, le côté un peu salin, mais alors, ouais. Le sel était vraiment. Et j'ai regardé, il y a rien sur le terroir.
Alors pour le coup, lui, il revendique ses appellations jusqu'à présent.
Ouais.
C'est qu'il a sans doute pas encore été trop embêté. Mais Ladois, il n'a pas le droit parce que les raisins sont vinifiés dans le Beaujolais, donc il ne le revendique pas, il est en vin de France, et donc il met le code postal.
Tu sais le sol,
on est sur des sols à dominante calcaire, après, la spécificité de sa parcelle.
Ça, je...
Oui, et puis bon, après, c'est la seule cuvée qui fait en pinot noir, hein, tout le reste c'est du gamay, donc c'est sûr qu'on a beaucoup plus de tension sur le Ladois, sur les pinots noirs, là où sur les gamay c'est vraiment tendre, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très en rondeur, et là c'est vraiment. C'est assez différent, c'est vrai qu'il est un peu à part dans ce qu'il fait.
Et toi, ton dernier coup de cœur, vin?
Ah, je sais pas, parce que j'ai un récure d'artichaut, moi, donc. Ce sera quand même le champagne empreinte de la Herthe. Qu'on a goûté samedi.
C'est très bon.
Parce que ça, c'était quand même.
On a passé un bon moment.
Super,
c'est vrai.
Bon. Quand même.
C'est vrai. En équipe.
Ça, franchement.
Voilà. On a profité d'une petite heure où il n'y avait pas grand monde.
Ouais. C'est un très beau canon. Champagne, mais alors là, ça m'a vraiment, vraiment plu. Hein. Bon, côté vineux, l'acidité, la structure du vin, l'équilibre. T'as envie d'en boire, t'as vraiment, ouais, franchement, super.
Ouais, c'était un bon moment.
Et du coup, j'ai envie de manger, tu m'emmènes manger où? Alors il vient de rentrer de pas le voisin.
Ouais, alors il y a Mickaël, ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, dans le quartier de la Cruteno, on a plein de copains restaurateurs qu'on aime beaucoup.
Bah, on mange où est-ce qu'on mange bien la Cruteno?
Ben, tout autour de chez nous, on mange très bien. Pont au Chat, Transsibérien, si vous voulez manger russe, chez Paulus, donc juste à côté. Vous pouvez aller à Dim Sum Sam.
C'est top.
Hein, Christophe nous a encore parlé hier.
Première fois.
Ouais, des vapeurs hyper fins. Elle aime aussi les vins.
Chinois, coréen.
Vietnamien.
Vietnamien,
ouais. Oui.
Et elle s'intéresse de plus en plus au vin. Elle propose des jolies références. Là. Il y a beaucoup de chefs qui vont manger là-bas. Ouais. Ce qui est plutôt bon signe. Et des bons chefs. Ouais. Voilà, après, on peut citer toujours le fameux Pont Corbeau où tout le monde va déjà. Donc, est-ce qu'il faut encore en rajouter je ne sais pas. Sinon, on n'aura plus de place. Mais,
l'emblème.
Voilà.
Non.
Alors, on mange. Où est-ce qu'on va manger où?
Alors, moi, comme je disais, c'est simple. Ça va être Paulus, moi, sur. Ouais. C'est juste à côté.
Salut, Paulus.
Bon.
Paulus. On parle de toi, là, il paraît.
Et je trouve ça franchement. J'adore la cuisine amicale.
Puis on va manger chez les copains. Quoi. Quand bon, on est chez Mickaël, on est chez un copain.
C'est bon, c'est frais, c'est goûteux. Rapport qualité-prix incroyable.
Ouais.
Il devrait en mettre plus dans ses assiettes. Cas où, petit message. Mais en tout
cas.
Mais
les gourmands.
Ouais. Mais je trouve ça, franchement, le rapport qualité-prix qui finit superbe. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et puis, Dim Sum Sam, la révélation d'hier, où je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ouais.
Okay.
C'est, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Ouais. Dans le quartier, après. Et Transsibérien aussi, parce qu'il faut quand même lui tirer un petit chapeau quand même, parce qu'il fait quand même une belle cuisine russe qui est retravaillée.
Mm-hmm.
Alors attention, hein, c'est pas la nouvelle cuisine russe, hein, c'est retravaillé, mais surtout bien présenté avec des beaux petits essais, avec un petit peu d'azote, et puis je trouve ça vraiment génial. Et c'est
ça, c'est bien. Et du coup, avant l'amour, tu bois quoi?
Champagne, allez.
Champagne, après l'amour, tu bois quoi?
Parce que j'ai bu avant, donc un rouge qui fait au moins 14,5. Quoi.
D'accord. Pour bien. Ton dernier coup de cœur, livre, CD, série, film, où tu t'es dit là j'ai envie d'ouvrir une bouteille et j'ai envie de partager, ou juste quelque chose qui t'a plu et tu t'es dit je me coupe un peu, ça permet un peu de te connaître.
Alors, je fais pas partie de ceux qui boivent du vin en lisant, mais j'aime bien lire. Ouais. Par contre, je me rappelle plus l'auteur, mais le livre s'appelle Cheptel. Ça, c'était un super coup de cœur. C'est un beau pavé, et pourtant, ça, je l'ai lu très vite.
Okay.
Et je pourrais vous retrouver l'auteur, mais ouais, le Cheptel, c'est le titre.
Ok. Et toi, dernier livre, CD, film.
Ouh, alors, musique, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dernière claque. Bon, ça va rester quand même. Ce qui m'a vraiment marqué ces dernières années, c'est Quête Tempête, c'est sûr. Ça j'y tiens. Et Sleep for Mod, en groupe de Nottingham, que j'adore. En bouquin, j'ai pas eu trop de le lire. J'ai commencé énormément de livres. Là, je suis sur La Machina Infernale de Jean Cocteau, que j'aime beaucoup. Après, je préfère les dessins de Jean Cocteau que ses écrits. Hein. C'est bon. Et au niveau série, ben, je ne suis pas série parce que en fait, ça me gonfle d'un poids. Voilà, mais je ne suis pas du tout série. À part, bien sûr, les séries sur le vin.
J'ai l'auteur, Céline Dangean.
Céline Dangean. C'est parfait. En tout cas, moi, j'étais content de faire cet épisode avec vous deux. Il était temps qu'on. Mais c'est vrai que dès qu'on se croise, il y a toujours le sourire. Et c'est un peu comme on dit souvent. On a l'impression de vivre dans un monde parallèle.
C'est
ceux qui aiment les vins nature et les vins là avec les Sommerfest. Il y a le monde actuel. Moi, j'ai pas trop envie d'y être. Donc le monde parallèle est plutôt bien. On s'entend bien. Alors c'est pas non plus le bisounours. Hein. Tout le monde, rien n'est parfait.
Non. Mais Christophe, il dit des fois, on vend du vin, on n'est pas au bagne, quoi.
Ouais.
Effectivement,
c'est ça,
un métier où les gens viennent chez nous quand ils veulent se faire plaisir, donc ils sont plutôt dans une vibe positive.
De cuisine, de vignerons, de sourires, de gens, de rencontres. En fait, moi, je vois que tout le monde, on a un peu, alors pas du tout la même trajectoire, mais quelque part, on s'est tous façonnés à travers nos rencontres, les regards, les sourires, les bons et les mauvaises personnes.
Ouais,
bon,
après, ça reste un métier. Il dit, bon, faut pas. Plus quand même de belles.
Parce qu'on a quand même la chance de faire ce qu'on aime.
C'est pareil quand tu t'en aperçois que t'es pas au courant, parce que tu bosses, tu fais un truc que tu aimes, donc tu bosses. Et
c'est ça.
Dit, tu.
C'est une richesse.
T'as la chance d'aimer ton métier, tu dis oui. Et tu te poses même pas la question, c'est même te dire, mais pourquoi t'aimes pas ton métier, toi. Maintenant, j'ai fait ça parce que j'aimerais faire autre chose. Et
après, il y a quand même du boulot.
Les gens me disent souvent, mais toi, on a l'impression que tu aimes ce que tu fais. Je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève.
C'est clair. Hein.
Et ça, c'est sûr. Pour moi, c'est ma richesse, quoi.
Quand tu te lèves fatigué, que t'as pas envie d'y aller, tu dis merde, tu vas quand même. Puis au bout d'un quart d'heure, une minute, ça passe, quoi, tu vois.
Il y a des moments quand t'enregistres, t'es là, prendre le train. Et puis finalement, que tu y es. Bonheur.
Comme on dit toujours, le plus chiant, c'est d'y aller.
C'est ça. C'est toujours
ça, c'est comme tout.
Écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie. Je te laisse le mot de la fin, tous les deux. Dernière chose à nos éditeurs.
Buvez du vin, partagez-le, vivez heureux, et puis buvez des bonnes choses surtout.
Cette expérience du raisin et des papilles vous a plu?
C'était
super,
très sympa.
Très intéressant, super.
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir aussi les cavistes, parce que vous faites partie de l'histoire. C'est bien d'avoir les vignerons, mais même si on est les passeurs d'histoire des vignerons.
Tout à fait.
Je pense que le caviste est un.
C'est des petits traits d'union. Hein,
c'est ça.
C'est un élément
essentiel.
Comme on disait avant, on est rien sans eux. C'est grâce à eux qu'on bosse aussi. Hein. Mais c'est vrai que d'un côté, on essaye nous aussi de leur apporter un petit quelque chose. Certains vignerons, on essaye, si on peut, leur donner peut-être quelques petites astuces ou tuyaux ou directions. Et c'est vrai qu'on a ce plaisir-là aussi. C'est comme on les côtoie depuis longtemps. Des fois, on voit ces petites évolutions. Et si des fois, on a pu aider un tout petit peu aussi, nous, à faire évoluer leur vision, c'est top.
C'est bien, parce que c'est les clients qui viennent acheter une bouteille de chez Gueub, de chez Durman, de chez Brandt. De donner une sorte d'image au client du vigneron qui boit. Il boit pas juste une étiquette bleue marquée indulgence dessus ou tout simplement quoi. Il y a un homme derrière.
Il y a une histoire.
Du boulot.
Il y a des galères et surtout énormément de travail. Vigneron, c'est sûr, c'est sûrement pas le métier le plus reposant qui existe.
C'est sûr.
En tout cas, merci à vous deux. Merci pour votre accueil.
Merci à toi.
N'oubliez pas, près de chez vous, il y a certainement un vigneron indépendant, et je précise bien indépendant, qui va faire du sourcing, qui va rencontrer des vignerons, qui va les croiser, des brasseurs aussi, bah aussi pour les spiritueux, parce que Benoît, bah, tu as plein de spiritueux aussi.
Spiritueux, bien artisanal, bien sûr.
Ils vont pousser la porte, ouais. Ils vont voir comment ils travaillent, aller les voir, un peu comme quand vous avez découvert que, bah, qu'il fallait manger local, bio, etc. Faites la même chose sur les boissons, sur la bière, sur le vin, sur le café, pourquoi pas sur le thé ou sur les jus de fruits, les sodas. Faites-vous plaisir, de toute façon, on n'a qu'une vie, autant en profiter et nous la rendre agréable. Moi, je vous dis à très bientôt, ici, ailleurs, je ne sais pas trop où, j'ai une petite idée, mais je ne vous dirai rien. Je sais qu'il y a un salon entre-temps qui va arriver. En tout cas, on va passer encore de beaux moments. À très bientôt, et comme je dis toujours, buvez modérément, buvons libre et buvons Alsace. Eskilt !
Eskilt, santé !
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.